Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église Grâce et Vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par le Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Allez, merci de votre accueil, toujours chaleureux. Et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Jean-Sébastien m'a pas donné le thème, mais il m'a donné le passage. Hein? Puis j'espère que j'ai bien retenu. Vous êtes dans une série dans Colossiens, c'est ça? C'est Colossiens et 1, et vous êtes rendu où? Voir si ça correspond à... Ben, c'est pas pire, je suis dans ça. Mais moi, on va voir ce matin de 1:24 à 29. Fait, il y en a qui c'était à partir de 20, d'autres... Donc, vous pouvez tout de suite tourner dans vos Bibles, dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1, les versets 24 à 29. Je sais pas pour vous, et mais je vous partage un peu pour moi que on est un peu en tant qu'être humain sous le choc des événements qui se sont produits vendredi dernier. Hein, c'est devenu le vendredi 13. Avant, on avait le 11 septembre. Maintenant, le vendredi 13, ce qui est arrivé à Paris va être marqué sur la planète. Et je pense qu'en tant que chrétien, on se doit vraiment en tout cas, moi, je ressentais vraiment de l'amour et un genre de désir d'appuyer ces gens-là, même si je ne les connais pas. On peut penser, premièrement, à tous nos frères et sœurs dans la foi qui sont là, qui sont peut-être affectés de près ou de loin, mais juste en tant que membre de la grande famille de l'humanité, à tous ces gens qui ont été affectés de toutes sortes de façons. Je pense que la France et le monde entier est sous le choc. Et de tels événements nous fait sortir de la paisible quiétude de nos vies. La vie est belle, puis elle est fun quand ça va bien, quand il n'y a pas de soucis. Chaque chose est à sa place, tout est correct, et ça fait partie de la vie. Hein? Le Seigneur Jésus veut que dans la vie, parfois, ce soit comme ça. Il y a des temps d'épreuves, il y a des temps difficiles, mais... ça fait partie de la vie que ce soit bien, hein, comme dit le chant, « It is well in my soul », c'est bien dans mon âme, dans mon cœur, la vie est paisible. Suite à ce qui est arrivé, ça nous ramène à de grandes, mais à des terribles vérités, comme la vie est incertaine. On n'est pas en contrôle de notre destin. La mort et le mal peuvent nous atteindre malgré nous à n'importe quel moment. Et ça nous met dans un état de fragilité et de vulnérabilité avec lequel on n'est pas à l'aise. Hein? Quand on est dans la petite vie paisible, tranquille, on ne veut pas penser à ces choses-là. Hein? Quand on parle du Seigneur à des gens, puis un des commentaires que j'entends souvent, c'est « Hey, écoute, à force de nous parler de la mort, on ne vit plus, là, tu sais, on fait juste penser à ces choses-là, ça nous enlève notre joie. » On va revenir dans notre passage, mais dans notre passage, on va appliquer certaines des vérités de cet événement-là qui est arrivé à Paris. Premier verset, on va commencer avec le verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ce passage-là est un petit peu compliqué, hein? Il y a des jeux de mots, « en ma chair pour son corps », « je supplie aux souffrances de Christ ». On a besoin de mettre un peu chaque chose à sa place. Paul dit qu'il était en train d'achever, de compléter les souffrances de Christ. On s'entend que les souffrances de Christ étaient complètes, parfaites. Jésus a dit « tout est accompli ». Donc, tout ce qui était nécessaire pour le salut des âmes, pour le salut de l'humanité, Jésus-Christ l'avait accompli sur la croix. Et ça, il n'y a absolument rien qu'on peut ajouter pour notre salut. Si on pense que, oui, Jésus a fait sa part, mais moi, pour gagner mon ciel, j'ai besoin de faire ma part aussi, on est un peu comme déchu de la grâce, dans le sens qu'on sort dans ce que Dieu a pourvu pour nous, pour le salut. C'est lui qui fait absolument tout. Donc, Paul a tellement enseigné sur la grâce seulement par la foi pour le salut. Ce n'est pas ça qu'il était en train de dire. Christ avait souffert pour créer l'Église en donnant sa vie. Et Paul, un peu comme nous, Paul prenait la suite selon les directives et le mandat qu'il avait reçu de son Seigneur en souffrant. Pourquoi? Pour son édification et pour sa croissance. Et Paul avait reçu un appel. Hein? Et il y a le mot « ministère » qu'on voit au verset 23. Il dit « Et si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'Évangile que vous avez entendu. » Il dit « Et donc, moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Et au verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Ce n'est pas un titre honorifique. Le titre ministre ici, c'est serviteur. Il dit, j'ai été serviteur, mais avec un appel précis. C'était son service, c'était sa part. Et il voulait le faire avec joie. Paul voulait donner sa vie pour Jésus et pour son Église. Un des premiers thèmes qu'on veut voir à travers le texte qui revient, on va voir le reste des versets tantôt, c'est le fait de donner sa vie. Il y a vraiment quelque chose de beau, de grand, de noble à donner sa vie pour les autres, en se sacrifiant, quand ça coûte quelque chose, puis donner notre vie, c'est grand. Jésus a dit quoi par rapport à ça? Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, quand il a dit ça en Jean 15, verset 13, il était en train de leur dire, « Moi, je me prépare à donner ma vie pour vous. » Si on revient à Paris, drôle de parallèle, hein? Ça me fait penser à ces 8 terroristes qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie, mais pour faire quoi? Pour faire du mal aux autres, en tuant et en blessant gravement des centaines et des centaines de personnes. Et ça nous donne seulement une petite idée de la noirceur puis des ténèbres qui avaient envahi leur cœur. Pour faire du mal aux autres, ils étaient prêts à donner leur vie. Jésus, lui, a donné sa vie en acceptant l'injustice, le mépris, la souffrance. Jésus était et est toujours le prince de la vie. La mort ne pouvait pas le retenir et en donnant sa vie, il allait ressusciter pour nous donner, nous procurer cette vie éternelle. Et quand il est mort, pour nous, il est mort dans la sérénité, dans le pardon, en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a donné sa vie en mourant pour donner la vie à des millions, et on peut dire à des milliards de personnes pour l'éternité. Paul, maintenant, en ayant reçu ce don-là, il dit, « Maintenant, moi aussi, à l'exemple de Jésus, je veux donner ma vie pour compléter, pour poursuivre l'œuvre de Jésus. » Jésus est mort pour donner la vie éternelle, pour fonder l'Église. Et moi, maintenant, en ayant reçu ce don de la vie éternelle, Paul lui dit, « Je veux assurer l'affermissement, la croissance, le développement de l'Église. » Et Paul avait reçu tout un mandat. Hein? Dans le livre des Actes, Actes 20, 24, il dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Non, je suis prêt à la donner, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. » On lit ce verset-là, puis on peut vraiment être inspiré. Quelle vie et quel cœur de la part de Paul. Paul était prêt à donner sa vie. À plusieurs occasions, Paul, il dit, « OK, c'est fini pour moi, je m'en vais avec le Seigneur. » Il voyait sa vie comme une libation. Hein? Une libation, c'est une offrande liquide qu'on met sur un autel où il y a un feu. Puis quand tu verses le liquide, là, qui a un peu d'alcool, qui était du vin, qu'est-ce qui se passe avec le liquide qui a été versé? Ça s'enflamme, puis il n'y en a plus. Et Paul disait, ça, c'est ma vie. Ma vie est comme une libation. Je suis là, puis peut-être que je vais être lapidé par les gens qui sont devant moi, qui sont en colère. Et Seigneur, si c'est le cas, je veux donner ma vie pour toi. Avant sa rencontre avec Jésus, Paul s'appelait comment? Saul, hein? En français, ça va bien, on change juste une lettre. Et Saul était un terroriste. On voit là, les personnes puis, qui ont fait ces actions barbares, hein, souvent ignobles, impensables. Et on dit que c'est des terroristes, c'est des gens qui se plaisent pour quelques philosophies qu'on penser qu'on n'arrive pas à saisir, ça ne rentre pas dans notre tête. C'est des gens qui sont là pour faire du mal aux autres, qui sèment la peur. Ben, Paul était un terroriste à sa façon. Il participait au meurtre des chrétiens et il les poursuivait de ville en ville pour les mettre en prison. Au livre des Actes, Acte 8, verset 3, il est dit que Saul ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il ne se cachait pas, au moins, mais c'était ses actions. Chapitre 9, verset 1, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saul terrorisait l'Église. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, il entend une voix, devient aveugle. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Seigneur, comme un titre honorifique. Et il lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce serait dur pour toi de regimber contre tes aiguillons. Ça veut dire que ce serait dur pour toi de dire, « Non, non, je ne t'ai jamais rien fait, Jésus. » Toute une métamorphose de celui qui enlève des vies puis qui blesse, il est devenu celui qui donne sa vie pour l'Église, qui donne sa vie pour Jésus, pour que tous puissent en faire partie de cette Église-là, pour que tous reçoivent en Jésus le pardon des péchés. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire de chacune des vies. Il veut faire une métamorphose. Il veut prendre de nous des gens menteurs, égoïstes, méchants. Des gens comme nous sommes, comme nous étions. Il veut faire une métamorphose. Il veut faire un changement. Donner sa vie. Paul, dans ce passage, des versets 24 à 29, est en train d'exposer son appel, sa philosophie du ministère. On pourrait s'en aller en mission en Afrique et dire, on prend juste ce passage-là, puis on fait comme Paul, et on ne manquerait pas grand-chose. Donner sa vie. Un autre aspect qu'on voit juste dans les versets avant, ça parle de réconciliation. On va aller prendre un peu le passage que Jean-Sébastien avait pris au verset 20. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Au verset 21, il dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Paul avait maintenant un message d'amour et de réconciliation. Lui, le persécuteur, le terroriste des chrétiens, maintenant, il est là pour annoncer la paix, pour faire le lien. Quelle stratégie de la part de Dieu! Je vais prendre celui qui, de la part des Juifs, martyrisait les chrétiens pour maintenant être celui qui dit, je vous annonce celui que je persécutais, Jésus. Et ce que vous avez fait aux chrétiens et ce que j'ai fait avec vous aux chrétiens, maintenant, je vais accepter avec amour que vous me le fassiez envers moi. Paul disait, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, hein, même si par ses actions, par sa vie, il était un apôtre par excellence. Il dit, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Et il dit, j'agissais par ignorance. Mon cœur était dans les ténèbres. Après des événements comme ceux de vendredi dernier, on se demande comment on peut même parler de réconciliation. Hein? Tous les grands premiers ministres, là, présidents des pays amènent leur stratégie et on n'entend pas beaucoup de réconciliation. Comment pardonner pour les gens qui sont en France? Hier, je ne sais pas si c'était à Montréal ou à Ottawa, il y avait un résident du Canada qui était là, qui mettait des fleurs et qui disait que sa jeune sœur était morte, décédée, atteinte par une balle. Et il était là, il déposait des fleurs là où il y avait des cierges et toutes les choses qui étaient là pour honorer les gens. Et c'était sa propre sœur. Réconciliation. Comment tendre la main à ceux qui nous ont fait du mal, qui ont été et qui vont être une source de terreur pour l'avenir. On dit que la vie en France ne sera plus jamais la même. Comment trouver une once de compassion et d'amour pour construire des ponts vers ces gens qui se cachent et qui peuvent sortir de n'importe quand? Dieu, lui, a décidé de prendre sur lui la charge de la réconciliation en donnant sa propre vie pour faire la paix. Nous, l'humanité, par notre méchanceté, par notre haine, on était ennemis de Dieu. On déplaisait à Jésus, j'oserais dire, comme ceux qui ont commis ces crimes par cette violence. Peut-être que là, vous dites, oh Richard, là, c'est correct avec ton exemple de ce qui est arrivé, mais on n'est pas comme ça devant Dieu. On n'est pas comme ces gens-là qui ont fait le mal. Vous avez peut-être raison. On est pire qu'eux. On est pire qu'eux devant Dieu parce que notre Dieu est pur et saint. Il ne peut pas supporter le mal. Et nous, on est des menteurs, des voleurs, des personnes qui ont la convoitise dans le cœur. Nos cœurs sont tortueux, remplis de haine. Et Dieu voit tout cela. Dieu voit nos pensées. Dieu entend nos paroles. Dieu voit nos actions et Dieu voit en image le sang sur nos mains. Et Jésus a décidé d'en prendre un comme nous, il a pris Saul, et d'en faire un messager de son amour. Et maintenant, Jésus veut te prendre, toi, pour te donner son amour et pour que tu fasses partie de son Église, de sa grande famille spirituelle. Jésus veut te réconcilier avec lui-même. C'est toi qui l'as offensé. Mais il dit, moi, je vais payer. Je vais établir la déclaration. Tu auras juste à signer si tu acceptes les termes de cette entente-là. Le message de Jésus que Paul nous transmet, c'est le message de l'Évangile qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu. » On est ceux qui font le mal. On a offensé Dieu de toutes sortes de façons et il nous offre son pardon. Ce matin, qu'allez-vous faire avec le pardon de Jésus? Pour moi, il y a 33 ans, je l'ai reçu avec reconnaissance. Quand j'ai compris qui j'étais devant le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, quand j'ai compris ce qu'il m'offrait, je me suis levé puis j'ai signé. J'ai dit, Jésus, je veux recevoir ton salut. Au verset 25, après avoir parlé de l'Église, Paul dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Au verset 28, après avoir parlé de Christ, de Jésus, hein, Christ... Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Il dit, c'est lui, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. que nous annonçons, exhortant tout homme. Paul avait une cause qui valait la peine de donner sa vie. Donner sa vie en servant, en souffrant avec joie. Et on peut extrapoler à plusieurs éléments qu'on va mettre autour, mais deux éléments. Deux éléments que vous pouvez appliquer de la même façon dans nos vies. Si vous voulez avoir une cause pour donner votre vie, une cause qui en vaut vraiment la peine, c'est lui, c'est Jésus. Et c'était tellement beau et agréable tantôt de voir les boîtes pour les enfants qu'on a déjà fait quelques années à l'église de Saint-Bruno. Et dans la vidéo et dans la présentation, le but, pourquoi ça en vaut la peine, c'est à cause de Jésus. À cause de ces gens-là qui vont pouvoir connaître Jésus, connaître l'amour de Jésus à travers un cadeau qui vient d'une façon gratuite, d'une façon altruiste. C'est lui. Ça en vaut la peine. Jésus vaut la peine. Jésus est une cause qui vaut la peine de donner notre vie. Et en même temps, c'est d'elle, elle en parlant de l'Église, le corps de Christ, l'Église en vaut tout autant la peine. Quand on pense à une cause qui vaut la peine, ce qu'on a vu de la part des terroristes nous donne la nausée. On peut que voir en eux la démence d'oser croire qu'ils commettent le mal pour un Dieu ou une cause quelconque. Ce qui transpire de ça, c'est de la haine, de la vengeance, de la destruction. Mais autant on voit le pire de l'être humain, autant on est capable de voir le meilleur. Il est grand et touchant de voir des exemples de vie qui ont été donnés pour une cause. Et là, je ne parle pas de Carey Price qui donne sa vie pour le Canadien, là. On est ailleurs, là. Tu sais, des fois, on aime avoir la vie légère puis de dire, « Ah ouais, Carey Price, hein, tu sais, là, il est blessé, mais tu sais, il va revenir. Hey, lui, il se donne pour notre équipe puis c'est notre héros. » Mais on parle plus de Nelson Mandela, hein, qui a combattu toute sa vie pour la liberté puis l'égalité des chances de son peuple qui était soumis à l'apartheid. Et Nelson Mandela a été 27 ans en prison dans des conditions difficiles. Et quand tu es 27 ans en prison, à chaque jour, tu ne sais pas si un jour tu vas ressortir de là. Tu ne sais pas si tu vas être exécuté, mis à mort. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir à souffrir. Et ça prend de la persévérance, ça prend un don de soi, une cause qui vaut la peine de sacrifier notre vie. On pense à Martin Luther King qui, lui, est mort. Il a vraiment donné sa vie en vivant, puis il a donné sa vie en mourant pour lutter contre la haine et le racisme aux États-Unis. Et vous savez, les vrais héros, ceux qui donnent vraiment leur vie pour une cause sont ignorés pendant qu'ils donnent leur vie. J'écoutais un reportage qui nous montrait ces médecins hors frontières qui travaillent dans l'ombre, sans relâche. Ils travaillent, ils dorment un 5-6 heures par nuit, ils travaillent 18-19 heures par jour. Il y a des files interminables devant leur clinique. dans des pays du tiers-monde, sans réel salaire où ils pourraient être les plus riches de la société, au péril de leur vie. Mais ils voient ces gens-là et ils disent, « Moi, j'ai tout. Eux, ils n'ont rien. Si je peux soulager leur misère et contribuer le moindrement à leur santé, une cause qui en vaut la peine. On va se donner quand on va voir que ça vaut vraiment la peine de donner notre vie. Parce que notre vie, on va les vivre de toute façon, nos vies. On les vit-tu juste pour nos petits plaisirs? Ça a sa place. Hein? Jésus, il dit dans sa parole qu'il nous donne toutes choses afin qu'on en jouisse, qu'on en profite. C'est pas de, on n'est pas plus spirituel en se privant de toutes les choses qu'on aime. Mais une fois qu'on dit, hey, « Seigneur, tu es bon, tu nous donnes tellement de choses, toutes les choses que j'aime, un voyage, un manger au restaurant, faire tel projet, avoir telle maison à mon goût, puis les rénovations. Une fois qu'on a ces choses-là, on arrive après, puis on se dit, il me semble que mon cœur voulait ça à tout prix, tu sais, puis un peu comme un enfant qui va... un cadeau, je l'ai eu, là. Qu'est-ce que je fais après? Pourquoi je veux me donner puis d'avoir ce sentiment profond de dire, « Wow! » Je me sens tellement bien. Je suis tellement content d'avoir donné ma vie pour ce qui comptait. Quand je vais être vieux dans ma chaise berçante en train de regarder le fil de ma vie, je vais dire, « Seigneur! » Que ça a été une bénédiction de pouvoir m'investir dans ce qui compte. Et je suis prêt à m'en aller dans ta présence en disant, j'ai accompli ma course. Je me suis donné pour une cause qui vaut la peine. Et les deux éléments que Paul dit, c'est d'elle. C'est de l'Église. C'est lui. C'est Jésus. Les deux sont intimement liés. On ne peut pas les séparer. Et vous savez quoi? Moi, le premier comme pasteur, puis vous comme membre de l'Église. Jésus, oui, 100 000 à l'heure, hein? 100%. On aime Jésus. Jésus en vaut la peine. Mais quand on est dans l'Église, y a-t-il une place où on rencontre le plus de difficultés? De blessures, de souffrances, de déceptions. Y a-t-il une place où on dit, « Hey, Seigneur, quand tu voulais qu'on donne notre vie pour l'Église, il me semble que ce n'était pas dans... Il me semble que ce n'est pas ce que je vis, là. On aime Jésus! » Mais l'Église, on dit, « Écoute, toutes mes fins de semaine, être là, puis dans la semaine, faire des appels, puis... tout, puis les gens qui n'apprécient pas plus, puis il me semble que ça avance pas, il me semble que ça vaut pas tant la peine que ça. Paul voulait donner sa vie pour l'Église. Si tu te donnes pour Jésus, tu vas te donner pour l'Église. Si tu te donnes pour l'Église, tu vas être en train de te donner pour Jésus. Et ce qui donne la grandeur, la gloire de Dieu est sur l'Église, sur toutes les petites assemblées qui sont au Québec, qui sont partout dans le monde. C'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est intimement lié à son Église. Sans Jésus, il n'y a pas d'Église. Et désormais, pour toute l'éternité, il n'y aura pas d'Église sans Jésus. Là où il y a un enfant de Dieu, un deuxième qui s'est uni, un troisième, puis un petit groupe, Jésus est là. La gloire de Dieu est là. Puis si tu veux donner ta vie pour ce qui compte, donne ta vie pour l'Église de Jésus-Christ, pour sa croissance. Pour moi, je veux vraiment donner ma vie, premièrement, pour mon épouse. Hein? Mon épouse, c'est celle que j'aime et que Jésus veut que je lui démontre l'amour de Dieu à travers mes ajustements, c'est celle que Jésus nous a donnée un à l'autre. Donc, ma femme a la première place, mes enfants aussi, c'est les personnes que Dieu a mises dans ma vie, sur mon cœur. Mais en même temps, je veux donner pas après, pas en dehors, en même temps que je donne ma vie pour mes proches, je veux donner ma vie, mes forces, mes énergies pour une cause plus grande que moi, pour une cause qui en vaut la peine. Et à partir du moment où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, à l'âge de 22 ans, en 83, j'étais en train de terminer mon bac en activité physique et je ne me voyais pas consacrer ma vie à montrer aux gens à jouer au badminton ou à faire du ski de fond, deux sports que j'aimais bien. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce qui vaut la peine? Et tout de suite, à l'intérieur de quelques mois, Jésus a mis dans mon cœur le ministère pastoral. Et on a chacun de nous un don particulier, un rôle différent à jouer dans l'Église. Et ce n'est pas plus glorieux d'être un pasteur que d'être un membre de l'Église qui a une fonction. Mais que ce soit pour comme pasteur ou que ce soit, peu importe, notre rôle, la même cause est là. La même cause qui en vaut la peine. Jésus, c'est lui. C'est d'elle, c'est de l'Église, c'est pour l'Église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Une cause qui en vaut la peine. Un privilège de se donner pour Jésus. Oui, il va y avoir de la souffrance, des déceptions, du renoncement, de la douleur. Paul parlait de ses souffrances pour les églises. Au verset 29, il dit, « C'est ce à quoi je travaille durement, en combattant avec sa force qui agit en moi. » Et le mot qui est là pour travailler, c'est ce à quoi je travaille, c'est vraiment un travail difficile, pénible. Et en combattant, le mot qui est là, je ne veux pas étaler mes connaissances de grec qui sont limitées, mais c'est le mot « agonizo menos » qui vient d'agoniser. Il dit « je travaille durement en agonisant ». Il dit « je suis à bout de souffle ». Puis quand je suis comme rendu au bout de mes énergies, je suis en train d'agoniser. Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le Seigneur aime ça quand on est faible. Ma grâce te suffit. C'est quand je suis faible que Christ est fort en moi. Et le Seigneur nous met souvent, il nous laisse aller avec notre petite batterie qu'on pense qu'il y a bien du jus dedans. Puis tout à coup, là, il nous branche sur son système à lui, qui n'a pas besoin de batterie à changer. On a besoin de dépendre de Dieu. On a besoin de travailler avec sa force. Et on a besoin constamment de faire le focus, de faire l'ajustement pour avoir une bonne vision spirituelle, pour voir qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Et l'intérêt qu'on va avoir pour Jésus-Christ va nous amener à avoir le même intérêt pour notre Église locale, pour l'Église de Jésus-Christ. La devise de la France est... Les trois mots, liberté, égalité, fraternité. Quelle merveilleuse devise pour une église locale qu'on peut vivre et intégrer dans notre famille spirituelle. Et quand on parle de donner volontairement notre vie pour l'Évangile, pour Jésus, pour son Église, un don si grand et si noble ne peut pas se faire par la contrainte. Pas de pression, pas de culpabilité, pas de mensonge, pas de manipulation. Un don si grand, si noble, doit se faire en toute liberté. Ça doit venir de notre cœur, d'une réponse volontaire. Et moi, ce que j'aime tellement du Dieu de la Bible, ce que j'aime tellement de l'Évangile, de Jésus, c'est que Dieu ne nous force jamais à faire quelque chose à l'encontre de notre volonté. Jésus n'est pas en train de nous tordre le cœur, de nous arracher quelque chose. Jésus ne nous mettra pas des mensonges dans la tête pour qu'on se fasse exploser pour donner notre vie. Jésus nous appelle. Jésus nous invite. Il nous offre de le suivre, de le servir. Si tu veux, moi, quand je regarde Jésus dans les évangiles, quand il rencontrait les gens, j'aime ça parce que moi, je ne suis pas un vendeur. Hein? Des fois, je dirais aux gens dans les magasins, je travaillerais, écoute, tu n'as pas besoin de ça, ça coûte bien trop cher. Tu en as déjà à la maison. Regarde, prends-lui, il coûte moins cher. Puis, je ne suis pas vendeur. Mais Jésus non plus, il n'était pas vendeur. Quand des gens arrivaient de dire, « Hey, moi, je vais te suivre tout. » As-tu pensé au coût à payer? Sais-tu que c'est dur de venir avec moi? Tu n'auras pas de lieu pour reposer ta tête? Il parlait avec des gens, puis il posait des questions. Puis il s'en allait, puis il laissait là avec sa question, réfléchit là-dessus. Jésus invitait. Jésus offrait. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas prêt à me suivre, mais continue à penser, à réfléchir, à décider pour toi-même ce que tu veux. Moi, c'est un maître comme ça que je veux suivre. Un maître qui est bon et doux. Celui qui ne me force pas, mais qui m'attire par son amour, par sa bonté, par sa grâce, par son exemple. C'est pour une personne comme ça que je veux donner ma vie. Il y a un verset qu'on n'a pas encore vu qui est tellement beau. Un plan du ministère, les objectifs pour l'Église puis pour chacune de nos vies, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça nous parle ici de ressembler à Jésus. Tout homme devenu parfait en Jésus. Parfait ici, ce n'est pas la perfection de jamais de faute, c'est quelqu'un qui est rendu à son plein développement, au meilleur qu'il peut être. Et parfait en Christ, ça nous parle d'une ressemblance dans le caractère, dans le cœur, qu'on est de plus en plus comme Jésus. Et ça, faites-vous-en pas, il n'y a personne qui va arriver là de son vivant. On a toujours à travailler, à avancer. Mais c'est néanmoins le but de Paul. Paul en disant, oui, j'ai une cause, je veux donner ma vie, C'est pour Jésus, c'est pour l'Église. Comment je vais l'accomplir? Comment je vais le faire? Je vais exhorter tout homme. Puis je vais les enseigner. Puis le but, ce n'est pas d'en faire un sauvé. Trop souvent, dans les églises, on se voit un peu comme des églises qui sont comme sous l'arche. On veut que tu rentres dans le bateau. Tu as fait ta profession de foi, tu as commencé à venir 4-5 semaines à l'église. Bien, à partir de là, tu es correct, on va s'occuper d'un autre. La maturité. On veut annoncer pour que les gens entrent en relation avec Dieu. Mais ensuite, on veut travailler dans la vie des gens. On veut qu'ils deviennent un outil qui a été formé par Jésus. Et ça, on pourra explorer ce domaine-là, très important, mais on ne veut pas juste faire des convertis, on ne veut pas juste faire des gens qui ont fait une profession de foi, puis on passe à un autre. Parce qu'ils ont besoin d'être équipés, d'être formés, de prendre soin des gens. La gloire de Dieu est dans l'Église. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez autour de vous? « Ah, oh, on n'est pas beaucoup à matin, lui il n'est pas là, tu sais, puis ouais, il faudrait bien que j'y parle de telle situation, ou si, ou ça. » Des gens imparfaits qui vous ont peut-être blessés ou déçus. On a besoin de regarder au-dessus puis voir l'Église de Jésus, de voir Jésus dans ces gens-là. L'Église et la gloire de Christ. La gloire de Dieu est dans l'Église. Et l'Église est la gloire de Christ. Est-ce qu'on veut voir ces choses-là? Est-ce qu'on veut voir ces vérités spirituelles et en être tellement touché qui fait qu'on va être capable, comme Paul, de recevoir notre mandat, notre appel, de dire « ça vaut vraiment la peine que je me donne pour toi, Jésus ». Pour ton œuvre. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Te remercier de ta parole, premièrement. Ta parole qui nous fait connaître qui tu es. Quel est ton amour? Quelle sorte de Dieu tu es. On veut tellement te rendre grâce que tu es un Dieu parfait. Il n'y a rien en toi qu'on peut dire tu es trop dur, tu es trop exigeant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tu nous dépasses, tu es trop grand. Et nos cœurs se réjouissent de ta grandeur. Oui, Seigneur, un peu comme tu as fait en appelant Paul, Seigneur, on veut entendre ta voix et on veut répondre à ton appel. Nous aussi, on veut donner notre vie pour toi, Jésus. On veut donner notre vie pour ce que tu veux accomplir. Tu as dit que tu bâtirais ton Église et on veut être ces mains qui travaillent avec toi pour une œuvre éternelle, une œuvre dans les vies des gens qui vont durer, qui vont avoir un impact pour l'éternité. Oui, Seigneur Jésus, façonne ton image en nous. Sois en train de nous sculpter. Sois en train de nous polir. Sois en train de nous façonner à ta ressemblance. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci parce que quand tu la vois, ton cœur se réjouit. Quand tu vois chacun de tes enfants, quand tu vois les gens que tu veux appeler à faire partie de cette bergerie, Seigneur, ton cœur se réjouit et on veut aussi se réjouir. Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Ranime ton Saint-Esprit en nous. Fais qu'on puisse tressaillir de joie en étant en train de se donner à toi, Jésus, dans ton Église locale. À toi soit la gloire, Jésus, dans l'Église. Amen. Merci.
Cette portion de la parole de Dieu vous a fait du bien? Partagez-la en la distribuant gratuitement sur les médias sociaux et en y laissant votre appréciation. Vous en voulez plus? Pas de problème. L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web avec des centaines de messages et de ressources en audio MP3 et vidéo. Vous trouverez tout cela à l'adresse graceetverite.org. Merci de nous honorer en visitant notre Église ou en laissant un commentaire sur notre site internet graceetverite.org.